51. Ses discordes avec Livy, dont il persécute tous les amis. La discorde éclata bientôt entre eux. En voici, dit-on, la cause. Livy le priait instamment d'inscrire dans les décuries un homme qui avait reçu le droit de cité. Il lui répondit qu'il n'y consentirait qu'à la condition qu'on mettrait sur les registres que cette grâce lui avait été arrachée par sa mère. Blessée de ce refus, elle tira du sanctuaire d'Auguste quelques lettres, où il était question de l'humeur dure et tyrannique de Tibère, et les lui lut. L'empereur fut tellement indigné qu'on les eût gardés si longtemps et qu'on les lui eût représentés avec tant d'aigreur que quelques historiens pensent que ce fut une des principales causes de sa retraite. Pendant 3 ans qu'il fut absent, il ne vit sa mère qu'un jour, et l'entretien ne fut que de quelques heures. Jamais il ne la visita durant sa maladie, et quand elle fut morte, il se fit attendre longtemps pour ses funérailles, en sorte que le cadavre était déjà corrompu et infect lorsqu'il fut mis sur le bûcher. Il se posa à son apothéose sous prétexte que telles étaient les dernières volontés de sa mère. Il annula son testament et acheva en peu de temps la ruine de tous ses amis et de toutes ses créatures, même de ceux qu'elle avait en mourant chargés du soin de ses funérailles. Un d'entre eux, qui était de l'ordre équestre, fut condamné aux travaux des pompes. 52. Son indifférence à l'égard de son fils Drusus, sa jalousie contre Germanicus qu'il fait périr. Il n'eut de tendresse paternelle, ni pour son propre fils Drusus, ni pour Germanicus son fils adoptif. Il haïssait Drusus pour ses vices, car il avait un caractère faible et une vie molle. Aussi ne fut-il nullement sensible à sa mort, et, à peine ses funérailles furent-elles achevées, qu'il reprit le soin des affaires et défendit que les tribunaux fussent fermés plus longtemps. Des envoyés de Troie lui apportèrent un peu tard leurs compliments de condoléance. Il se moqua d'eux, comme si la douleur était déjà effacée. Elle leur dit qu'il les plaignait aussi beaucoup d'avoir perdu un aussi bon citoyen qu'Hector. Jaloux de Germanicus, il affectait de rabaisser ses belles actions comme inutiles, et de critiquer ses plus glorieuses victoires comme funestes à l'Empire. Il se plaignit dans le Sénat que Germanicus n'eût pas demandé ses ordres pour se rendre à Alexandrie, qui était en proie à une famine subite et cruelle. On croit même qu'il chargea Cnaeus Pison, son lieutenant en Syrie, de le faire périr. Quelques-uns pensent que Pison, accusé de cette mort, aurait montré les ordres de Tibère s'ils ne lui eussent été donnés en secret. On afficha en beaucoup d'endroits, et l'on cria souvent pendant la nuit « Rendez-nous, Germanicus !» Tibère lui-même confirma ses soupçons en persécutant cruellement la femme et les enfants de Germanicus. 53. Ses cruautés envers sa belle-fille Agrippine. Agrippine, lui ayant fait quelques plaintes un peu libres après la mort de son mari, il la prit par la main et lui appliqua ce vers grec. « Si vous ne dominez, vous croyez qu'on vous blesse. » Depuis lors, il ne daigna plus lui parler. Un jour qu'il lui offrit à table quelques fruits, elle n'osa en goûter. Il n'insista pas sous prétexte qu'elle le jugea capable de l'empoisonner. Toute cette scène était calculée d'avance. Il ne lui avait offert ses fruits que pour l'éprouver, et pour qu'elle crût infailliblement se perdre en les acceptant. Enfin, il l'accusa de vouloir se réfugier tantôt au pied de la statue d'Auguste, tantôt auprès des légions, et il la relégua dans l'île de Pandataria. Comme elle lui en faisait des reproches mêlés d'injures, il la fit frapper par un centurion qui lui arracha un œil. Elle résolut de se laisser mourir de faim, mais il lui fit avaler de la nourriture par force. Elle s'obstina dans son dessein et mourut, en effet. Alors, une sorte de calomnie dont il ne poursuivit sa mémoire, et il fut d'avis qu'on mit le jour de sa naissance au nombre des jours néfastes. Il prétendit même qu'on lui sut gré de ne l'avoir point fait étrangler et jeter aux gémonies. Il souffrit qu'on rendit un décret pour le remercier d'une telle clémence et qu'on offrit des présents en or à Jupiter Capitolin. 54. Il fait périr ses petits-fils, Néron et Drusus. Après la perte de ses enfants, il lui restait 3 petits-fils par Germanicus, Néron, Drusus et Gaius. Il n'en avait qu'un seul de Drusus nommé Tibère. Il recommanda au Sénat les 2 fils aînés de Germanicus, Néron et Drusus. et le jour où ils débutèrent dans la carrière des armes fut signalé par des distributions au peuple. Mais lorsqu'il apprit qu'au renouvellement de l'année, comme on avait fait des vœux publics pour leur santé, comme pour la sienne, il dit au Sénat qu'on ne devait décerner de pareils honneurs qu'au mérite et à la vieillesse. C'en fut assez pour faire connaître ses dispositions à leur égard. Et dès lors, ils furent en butte aux accusations. On employa 1000 artifices pour les exciter au murmure, afin d'avoir à les punir. Tibère les accusa dans une lettre, où étaient accumulés les reproches les plus amers, et les fit déclarer ennemis publics. Tous deux moururent de faim. Néron dans l'île de Pansia, et Drusus dans les souterrains du mont Palatin. On croit que le premier s'y résolut, parce qu'un bourreau, qu'on lui envoya comme par ordre du Sénat, lui fit voir la corde et le croc. Quant à Drusus, on le priva d'aliments avec tant de cruauté qu'il essaya de manger la laine de son matelas. Les restes de ces deux jeunes princes furent tellement dispersés qu'à peine on put les recueillir. 55. Il donne la mort à presque tous ses amis. Outre les anciens amis que Tibère admettait dans son intimité, il s'était associé 20 des principaux citoyens de la cité pour lui servir de conseiller dans les affaires de l'État. Excepté 2 ou 3, il les fit tous périr sous différents prétextes, entre autres Elius Séjan, qui entraîna dans sa ruine un grand nombre de personnes. Il l'avait élevé au plus haut degré de puissance, moins par amitié que pour envelopper dans ses artifices et ses pièges les enfants de Germanicus et assurer la succession de l'Empire à son petit-fils Tibère, fils de Drusus. 56. Sa conduite envers des rhéteurs grecs. Il ne fut pas plus doux envers les Grecs qui vivaient avec lui et dont il préférait la société à tout autre. Il demanda à certains Xénon, qui mettait de la recherche dans son langage, quel était ce dialecte si désagréable dont il se servait. Xénon ayant répondu que c'était le dialecte dorien, il l'exila dans l'île de Cinaria, parce qu'il prit cette réponse pour un épigramme qui lui rappelait son ancien séjour à Rhodes, où l'on parle le dorien. Comme il avait coutume de proposer à table différentes questions qu'il puisait dans ses lectures journalières, le grammarien Séleucus s'informait par ses esclaves des auteurs que Tibère lisait chaque jour, et se trouvait ainsi préparé à ses questions. Tibère le sut, l'éloigna de sa cour, et ensuite le fit mourir. 57. Son naturel féroce. Sa nature insensible et cruelle se décela dès son enfance. Son professeur de rhétorique, Théodore de Gadare, paraît s'en être aperçu le premier et l'avoir parfaitement bien caractérisé en rappelant quelquefois dans ses reproches « de la boue pétrie de sang ». Il lui échappa des traits de barbarie, même dans les commencements de son règne, où il cherchait à gagner la faveur du peuple par des apparences de modération. En voyant passer un convoi, un plaisantin chargea tout haut le mort d'annoncer Auguste que l'on n'avait pas encore payé les legs que ce prince avait fait au peuple romain. Tibère se fit amener le plaisantin, s'acquitta envers lui, et l'envoya au supplice, en lui recommandant d'aller dire la vérité à son père. Peu de temps après, un chevalier romain, nommé Pompée, lui ayant refusé quelque chose dans le Sénat, il le menaça de la prison, en déclarant que, de Pompée, il en ferait un Pompéien, plaisanterie cruelle qui jouait tout à la fois sur le nom du chevalier et sur le sort qu'avait autrefois éprouvé son parti. 58. Il fait de tout un crime de lèse-majesté. Vers le même temps, le prêteur lui demanda s'il fallait poursuivre les crimes de lèse-majesté. Il répondit qu'il fallait faire exécuter les lois, et il les fit exécuter de la manière la plus atroce. Quelqu'un avait enlevé la tête d'une statue d'Auguste pour lui en substituer une autre. L'acte fut déféré au Sénat, et, comme il y avait doute, l'accusé fut mis à la question et condamné. Ce genre de calomnie fut insensiblement porté si loin qu'on fit un crime capital d'avoir battu un esclave, ou changé de vêtements près de la statue d'Auguste, d'avoir été aux latrines, ou dans un lieu de débauche avec une effigie d'Auguste gravée sur un anneau ou sur une pièce de monnaie, enfin d'avoir osé blâmer une seule de ses paroles ou de ses actions. On fit mourir un citoyen qui s'était laissé rendre des honneurs dans sa colonie le même jour où l'on en avait rendu autrefois Auguste. 59. ont fait circuler contre lui des vers satiriques. Sous prétexte de maintenir l'ordre et de réformer les mœurs, mais en réalité de poursuivre ses instincts féroces, Tibère commit tant d'autres actes de barbarie et de cruauté que quelques personnes dans leur poésie non seulement lui reprochèrent les maux que les Romains enduraient, mais encore prédirent ceux auxquels il devait s'attendre. « Je serai bref, écoute, inhumain sanguinaire, tu ne peux qu'inspirer de l'horreur à ta mère. Quoi ? Sans payer le sang ? Vraiment, c'est fort commode. Tu te crois chevalier pauvre exilé de Rhodes ? De ton règne, César, Saturne n'est pas fier. Par toi, son siècle d'or sera toujours de fer. Il veut du sang. Le vin lui devient insipide. Comme du vin jadis de sang, il est avide. Vois le cruel Scylla, de meurtre s'enivrant. Vois de ses ennemis Marius triomphant. Vois Antoine, excitant des guerres intestines. Et de sa main sanglante s'entassant des ruines. Quiconque de l'exil passe au suprême rang, ne fonde son pouvoir que dans des flots de sang. » D'abord, Tibère voulut qu'on regardât ses traits comme l'œuvre de quelques esprits qui ne pouvaient supporter ses réformes, comme l'expression, non de l'opinion publique, mais de la colère et de la haine. Et il disait de temps en temps « qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils m'approuvent. » Mais bientôt, il prouva lui-même la justesse et la vérité de ses reproches. 60. Ses fureurs. Peu de jours après son arrivée à Capré, un pêcheur l'aborda tout à coup dans un moment où il voulait être seul et lui offrit un surmulet d'une grandeur extraordinaire. Effrayé de l'apparition subite de ce pêcheur, qui s'était glissé jusqu'à lui en gravissant les rochers escarpés qui sont derrière l'île, Tibère lui fit fouetter le visage avec ce poisson. Le pêcheur, tout en subissant sa peine, se félicitait de n'avoir pas également fait présent à l'empereur d'une grosse langouste qu'il avait prise. Mais Tibère ordonna qu'on lui déchirât aussi la face avec cette langouste. Il punit de mort un soldat prétorien qui avait volé un paon dans un verger. Pendant un voyage, sa litière s'étant embarrassée dans des buissons, il terrassa le centurion de l'avant-garde qui était chargé de reconnaître le chemin et faillit le faire expirer sous ses coups.